Ce jour-là, un homme croisé à Port-au-Prince m'a questionné au sujet de l'immortalité des académiciens. Il semblait déçu de m'entendre dire que c'est la langue qui traverse le temps et non l'individu qui la parle, mais que cette langue ne perdurera que si elle est parlée par un assez grand nombre de gens. Il est parti en murmurant « Ah, toujours des mots ».
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les mots, justement, à l'occasion de la semaine de la langue française, journée spéciale francophonie sur France Culture, que nous avons choisi d'honorer en invitant un anglais. Provocation mise à part, puisque notre invité, vous vous en doutez, n'est pas un british comme les autres, poète, critique littéraire, traducteur et surtout académicien, comme Dany Laferrière que vous venez d'entendre, premier britannique à avoir été élu en 2013 à l'Académie française, ancien titulaire de la chaire d'études de la création littéraire en langue anglaise au Collège de France. Il publie « Dialogue singulier sur la langue française » aux Presses universitaires de France. Une discussion imaginaire, informelle, entre le « mi » et le « moi » de l'auteur. Le récit d'un voyage initiatique en langue française. Michael Edwards, bonjour.
Bonjour.
Ou devrais-je dire Michel Edwards aujourd'hui ?
Comme vous voulez.
Les deux, ça fonctionne.
Comment vont... Je préfère Michael.
Parce que c'est mon nom. Comment vont votre « moi » et votre « mi » aujourd'hui ?
Ils sont en bonne entente, merci.
Même une semaine de la francophonie, il n'y en a pas un qui prend le dessus en l'espèce le mois ?
Non, il est vrai que je suis un peu tiraillé entre cette immense attirance que j'ai depuis l'âge de 11 ans pour la langue française, qui est tout à fait positive et qui me fait vouloir défendre le français contre des anglophones un peu vaniteux de la supériorité de la langue anglaise dans le monde, etc. Et qui m'attire tellement que j'ai envie de l'écrire. Et un certain agacement, il est vrai, je vais vous le dire tout de suite, d'emblée, lorsque j'entends et lorsque je lis des gens dire et écrire que la langue française est évidemment la plus belle, la langue anglaise l'a usurpée, c'est une simple usurpation cette universalité de la langue française, de la langue anglaise, mais sinon j'arrive à gérer ce conflit.
Cette rivalité des langues, on va en reparler ensemble évidemment Michael Edwards jusqu'à 13h30. Vous dites d'abord avoir été émerveillé par la musique de la langue française et ses silences, attiré notamment par le charme discret du E muet.
Oui, j'étais attiré par le fait que la langue française, à l'heure actuelle, ce n'était pas le cas autrefois, ce qui est très intéressant, et surtout une langue vocalique où l'entend la musique des voyelles, et sous la musique des voyelles et l'affleurement des consonnes, il y a ce E muet qui est d'invention récente, ce E muet qui est une sorte de musique presque silencieuse qui accompagne la voix, et à ma connaissance c'est non seulement une invention française, mais ce E que l'on dit muet est unique. Il n'y a pas d'autre langue qui ait ce système d'aérer le passage des mots. Alors qu'en anglais, il y a un autre système, l'anglais qui est très consonantique, ce qui signifie que les Anglais aiment beaucoup entendre les consonnes, a néanmoins aplati presque toutes les syllabes qui ne prennent pas l'accent pour qu'on les prononce « e ». Mon nom, par exemple, ce n'est pas Michael Edwards, c'est Michael Edwards. Et en un sens, c'est une perte. Shakespeare ne parlait pas comme ça. Mais d'un autre côté, c'est ce petit E qui fait respirer la langue, un peu comme le muet en français.
Dans cet ouvrage littéraire, Dialogue singulier sur la langue française, que vous publiez au PUF, Michael Edwards, vous mettez votre moi et votre mi en discussion. Alors ça leur arrive de se chamailler, ils sont pas tous les jours d'accord, l'un et l'autre. Et puis parfois ils arrivent à se retrouver quand même sur l'essentiel. Ce qui est intéressant dans cette fiction littéraire que vous avez créée, c'est qu'on se rend bien compte que vous n'êtes pas le même en français et en anglais. Il y a une sorte de dédoublement de personnalité. Un dédoublement du soi que vous mettez en scène à travers cet échange littéraire. En français, vous avez l'impression d'être simplement quelqu'un d'autre et vous arriveriez à définir quel autre vous êtes par rapport à votre mi-anglais.
On me pose souvent cette question, et moi je me la pose aussi, et je n'ai pas vraiment la réponse. Je ne peux pas définir vraiment la différence. Lorsque je parle français, jour après jour, je ne parle que le français, j'ai l'impression d'avoir un autre rapport avec mon corps d'abord, parce que la langue, surtout pour un poète, passe par le corps. Et par la bouche, et je sens que ma bouche est tout à fait différente quand je parle français. Ensuite, j'ai un rapport différent avec ce que je vois autour de moi. Mais le problème, c'est que je suis tellement habitué maintenant à parler en français que je ne peux définir cette différence que, par exemple, en écrivant un poème, je l'ai fait, ou en regardant des exemples de l'emploi du français et de l'emploi de l'anglais. Quand en français, c'est un exemple que je donne dans mon livre, quand en français je descends l'escalier sur la pointe des pieds, j'ai l'impression que mon corps a en quelque sorte disparu. Il y a un jeu irréel, non réalisé, qui descend, et assez loin, en dessous, il y a le bout de mes doigts de pied. Alors que, dans l'autre sens, lorsque je suis, disons, en mode français, et que je dis « I tiptoe down the stairs », où le bout des orteils devient un verbe, ce qui est impossible en français, « I tiptoe », et le verbe « I tiptoed down the stairs » et où toute l'idée d'une descente se concentre dans une préposition « down » qui est, les prépositions sont très fortes en anglais, beaucoup plus fortes qu'en français, comme dans toutes les langues germaniques. « I tiptoed down the stairs », je peux avoir l'impression que je suis devenu uniquement le bout de mes orteils et que je suis corporel, bien sûr, mais uniquement dans cette petite région du corps. Vous voyez, et il faut, pour voir la différence entre les deux personnes que l'on est, quand on parle sa langue et une langue étrangère, il faut faire ces comparaisons, et il faut regarder la langue étrangère, ou plutôt, il faut regarder chacune des langues comme une langue étrangère. Et à ce moment-là, on voit précisément comme l'étranger voit le monde, voit son corps, participe au déroulement du temps, participe à l'espace.
Puisque vous avez introduit justement votre corps dans notre discussion, Michael Edwards, à partir de quand peut-on dire qu'une langue nous habite pour vous ?
Qu'une langue vous habite ? Je pense que la langue maternelle vous habite dès le moment où vous entendez des mots avant même de pouvoir les prononcer. Je pense vraiment que, effectivement, la langue habite le corps et que c'est très important. Et que, au tout début de l'apprentissage de la langue, le petit bébé, finalement, entend des sons d'abord et ensuite il entend de vrais noms. Et pour moi, c'est très important. Il entend des sons, et pour lui, les mots sont des sons. Maman, par exemple, ce n'est pas simplement la mère de l'enfant, c'est le mot maman. Et je pense que les poètes gardent ce sens enfantin, pas infantile, enfantin, des mots comme des sons. Et deuxièmement, il ne voit pas les mots comme une simple façon de nommer une chose, une personne, il les voit comme vraiment le nom de la personne. Et toute cette idée de l'arbitraire du signe, qui est tout à fait exacte sur le plan de la linguistique, on dit un arbre, on peut dire un tree, ein Baum, dendron, cet arbitraire du signe n'a pas de sens pour celui qui fait l'apprentissage de la langue, et n'a pas de sens pour un poète. Et je pense que c'est parce que, justement, la langue nous habite. Et quand on fait l'apprentissage d'une langue étrangère, normalement, on l'apprend à une certaine distance. On apprend que pour dire X en anglais, il faut dire autre chose en français. Mais si on se laisse habiter par cette langue, et c'est mon cas, même envahir, investir, occuper, dirait Baudelaire, à ce moment-là, c'est cette langue-là aussi qui occupe votre corps. Et ça peut être, comme vous l'avez dit, ça peut être un peu gênant, parce qu'il y a deux occupants.
Qui occupe votre corps et qui vient aussi transformer votre vision des choses. C'est ce que vous racontez dans Dialogue singulier sur la langue française. Le français vous a révélé un autre vous, mais vous écrivez que chaque langue véhicule surtout une autre vision du monde. On a placé les langues depuis toujours en rivalité, alors qu'en fait les langues s'éclairent entre elles d'une certaine manière. Par l'étymologie, la syntaxe comme la prononciation, chaque langue offre une approche spécifique de la réalité. Exemple extrait de votre essai littéraire. Pourquoi dit-on une pomme rouge plutôt qu'une red apple ? On en conclut que les Français nomment d'abord la substance, la pomme, et les Anglais l'accident, rouge, à cause d'une différence d'esprit. Le français, plus rationnel ou plus abstrait, voit les catégories du réel et ne s'intéresse pas à comment elles se présentent qu'après coup. Alors que les Anglais plus proches du réel, ou plus asservis au sens, voient la présence de la chose dans la façon dont elle se présente.
Oui, et vous voyez que j'ai essayé de présenter cette différence de façon tout à fait irénique, en disant qu'on peut dire des Français qui disent d'abord la chose elle-même, qui sont plus rationnels, mais on peut aussi dire aussi qu'ils sont plus abstraits, qui sont un peu détachés du réel. De la même façon, on peut dire des Anglais qui sont plus près du réel, ou bien, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai dit dans le texte, mais qu'ils n'arrivent pas à se dépêtrer d'un monde réel comme les Français le font naturellement. Et je l'ai dit comme ça parce que une chose qui m'ennuie chez les Anglais et chez les Français, et c'est la journée de la langue française qu'il faut le dire, c'est que chacun semble penser que l'on peut juger. Les Anglais disent communément que les Français ne sont pas plus rationnels, ils ne sont pas plus raisonnables, ils sont plus rationnels, et que c'est un grand défaut, parce qu'il faut être raisonnable, il faut savoir raisonner, il ne faut pas exister dans un monde abstrait. Les Français disent que les Anglais, les pauvres Anglais, n'arrivent pas à penser de façon universelle, parce qu'ils sont trop près des choses qu'ils trouvent autour d'eux. Alors qu'on ne peut pas juger. Chaque langue présente une façon différente de voir les choses. Et j'adore le fait. Je deviens aussi positif que possible. J'adore le fait que les Français ont défini peu à peu, inconsciemment sans doute, une langue qui leur permet de s'élever un peu au-dessus du réel pour tout voir, et une langue aussi que, me semble-t-il, ils veulent écarter du réel, éloigner du réel. Les Français veulent que la langue ne soit pas le réel, qu'il y ait un vrai écart entre les deux. La langue devient un artifice, une œuvre d'art. Alors que pour un Anglais, c'est le réel qui nous parle. C'est un peu le poète en moi qui parle aussi en ce moment. Je reviens à ce que j'ai dit à propos des mots comme maman. C'est le réel qui nous parle. Les mots sont dans le réel. Et en les utilisant, nous nous mettons en contact avec le réel. Et ce contact peut être tout à fait concret, quand on parle d'un paysage ou de l'aspect d'une personne, mais ce contact peut être aussi tout à fait intellectuel, lorsqu'on parle de la nature d'une couleur ou d'une idée.
Une langue n'est pas une façon différente de désigner les mêmes choses, c'est un point de vue différent sur ces choses, dit aussi la philosophe Barbara Cassin, que l'on recevait récemment pour son éloge de la traduction « Compliquer l'universel » chez Fayard dans la grande table. Qu'est-ce qu'on gagne finalement, Michael Edwards, à s'immerger dans une langue étrangère ?
On gagne énormément de choses. Il me semble de plus en plus que l'apprentissage d'une langue étrangère, quand on le fait vraiment sérieusement, non pas pour communiquer ou pour voyager, faire du tourisme, permet de se rendre compte que le monde lui-même est étrange, que une langue étrangère est l'initiation à cette étrangeté. Le monde pour un Anglais, lorsqu'il parle français, devient tout d'un coup presque un autre monde, ou du moins il a une perspective tout à fait différente sur cet autre monde. Il pénètre dans l'étrange, il apprend que l'étrange est là, partout, et cela lui permet d'aller dans d'autres dimensions de sa vie pour voir que l'étrangeté est partout, que le monde lui-même contient une sorte d'étrangeté, que le réel n'est pas la réalité que l'on voit, ou plutôt, elle est cette réalité, mais que au-delà de cette réalité, ou au cœur de cette réalité, il y a autre chose.
Michael Edwards, vous écrivez votre poésie en français ou en anglais ?
Les deux.
Les deux. Vous aimez en français ou en anglais ?
Est-ce que je m'aime ?
Oui, l'amour. Non, l'amour des autres.
Ah, pardon.
La langue de l'amour pour vous.
Oui. Je n'en sais rien. C'est une bonne question. J'y avais jamais pensé. J'aime en France les choses et les idées que j'aime en français. Un paysage français, je le vois en français. Un tableau, une musique française, je l'écoute avec une oreille française, ou du moins je le crois. Les idées, lorsque je pense en français, je les aime en français. C'est une très bonne question que vous avez posée, vous me faites réfléchir. Alors que en anglais, tout est anglais. Et je pense que ça vient du fait que, justement, pour moi, la langue est un moyen de s'approcher du réel, s'approcher d'autrui, s'approcher des idées, s'approcher du monde qui nous entoure, s'approcher de ce cœur du réel qui est mystérieux, étrange. La langue est une sorte d'amour, dans un sens un peu élargi du mot. C'est l'amour qui nous permet de prendre vraiment contact avec ce qui n'est pas soi. Nous sommes tellement pris par notre ego, que nous aimons plus que tout, hélas, qu'il est difficile, en fait, d'aller vers l'extérieur. Et pour moi, qui suis plongé dans la langue, en tant que poète, en tant qu'essayiste, et en tant que moi, pour moi, la langue est un moyen précieux pour me rapprocher de ce qui n'est pas moi, et pour m'oublier moi dans l'acte de parler, l'acte d'écrire.
Michael Edwards, écrivain, poète et académicien, est notre invité jusqu'à 13h30, auteur de Dialogue singulier sur la langue française, paru au PUF.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Nous vous recevons, Michael Edwards, à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie que nous fêtons avec cette journée spéciale francophonie sur France Culture aujourd'hui. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles, apparemment, en ce moment. C'est les bonnes nouvelles du jour, je vais vous les donner. Le français ne serait pas tant que ça une langue sur le déclin. Plus 7%, ce serait le nombre de locuteurs dans le monde qui a augmenté depuis 2010 de locuteurs en français. Sur Internet, le français est la quatrième langue la plus pratiquée dans le monde, ce qui est un revers léger pour les déclinistes qui ne cessent de nous annoncer que le français est mort, il vit encore. L'anglais qui colonise les esprits, l'anglais parangon de l'hégémonie libérale, de la richesse et du consumérisme, l'anglais menace pour le patrimoine de l'humanité, a même dit le linguiste Claude Agege, cheval de Troie de la diversité culturelle, et surtout l'anglais qui porte la pensée unique. Écoutons Claude Agege.
Je ne suis pas un homme nostalgique, je suis entièrement axé vers l'avenir et le passé m'intéresse peu. Je veux seulement dire que j'attends avec impatience, je ne suis pas le seul, l'apparition, la surrection de gens éminents qui soient des guides de pensée pour nous, ce qui rend la chose non pas problématique, mais en tout cas différée pour quelque temps. C'est précisément le poids de la pensée unique, c'est-à-dire d'une pensée qui a pour support l'anglais et qui est une pensée néolibérale, dont nous sommes tous les victimes, à commencer par les pays d'Occident, mais aussi ceux d'Asie du Sud-Est et l'Europe occidentale tout entière, à savoir des pays qui sont entièrement rangés sous la bannière du néolibéralisme, c'est-à-dire du profit à tout crin, sans aucune considération d'ordre culturel, sans aucune considération d'ordre humain, social, mais avec simplement un attrait pour le profit immédiat et le profit à longue durée, d'où les crises. Qu'est-ce que c'est que les crises qui se succèdent? Eh bien, c'est un moment de paroxysme où éclate une bulle qu'on a longtemps cultivée et laissée gonfler. Après cette crise, il y a un petit moment hypocrite de morale, de retour à l'éthique, de critique, de punition quelquefois même, de responsable. Mmh. Et puis aussitôt après, ça recommence. C'est ça que la pensée unique a pour... dont elle est le support qu'elle a pour objet principal. Et c'est cela que je dénonce. Le vecteur en est l'anglais. Je m'empresse d'ajouter qu'il y a aussi, parmi les gens qui cultivent cette langue, des esprits libres, et que l'anglais sert de support aussi bien à la pensée unique que je dénonce, que à une chanson révolutionnaire défendant la liberté contre la fausse liberté, qui est le libéralisme, c'est-à-dire la liberté de faire de l'argent en profitant des malheureux qui sont incapables d'en faire et qu'on exploite.
Bon, il reste quelques Anglais qu'on peut sauver. Vous venez d'entendre Claude Agege, Michael Edwards. Quand vous entendez ce type de critique, ça vous fait sortir de vos gonds?
Pas du tout. Non, non, je pense que Claude Agege, qui est un collègue au Collège de France, a absolument raison. Sauf que il faudrait ajouter plusieurs choses. D'abord, il parle d'une langue anglaise universelle. Il y en a plusieurs. Il est courant en France de dire que le français que l'on parle dans le monde, c'est le vrai français. Alors que l'anglais, c'est une sorte de sabir atlantique, pour citer Étienne Humble, un anglais horriblement appauvri. Alors que la vraie langue anglaise parlée par des gens qui l'ont comme langue maternelle est aussi universelle, est universelle. Je ne veux pas parler en termes de rivalité parce que je n'ai aucun intérêt pour ce genre de rivalité entre clans où il faut absolument que le français gagne ou que l'anglais gagne. Nous ne sommes pas dans le champion du monde. Mais il est vrai que il y a énormément d'anglophones dans le monde qui font que comme langue maternelle, l'anglais est une langue universelle, enfin une langue parlée sur beaucoup de continents. Il y a une deuxième langue anglaise universelle qui est celle parlée par des gens qui ont appris l'anglais sérieusement. Cette langue sert d'échange culturel, politique, etc., commerciaux aussi. Et il y a une troisième langue universelle qui est le globish, qui est parlé par un Taïwanais qui rencontre un Letton.
Et dans les institutions européennes, malheureusement, aujourd'hui aussi, Michael Edwards, c'est ce que le dit un traducteur, Xavier Combes, qui vient souvent dans nos studios. Il évoquait récemment dans une tribune parue dans Libération ce globish. Et lui, il le distingue clairement, cette langue qui est véhiculaire, comme il l'explique, le globish, langue véhiculaire de la mondialisation, outil au vocabulaire indigent, dépourvu de nuances et qui supporte l'approximation grammaticale et syntaxique de l'anglais, langue vernaculaire très riche, ancrée dans une culture immense. Ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez, vous, Michael Edwards, que déprécier la langue des autres, glorifier la sienne, c'est depuis toujours un sport national. Et c'est pas réservé aux Français contre l'anglais, aux Anglais contre le français. Vous rappelez notamment que nous, on n'a pas toujours fait preuve d'autant d'humilité qu'aujourd'hui. En 1768, Louis-Sébastien Mercier affirme qu'en l'an 2440, seul le français serait capable de rassembler l'humanité. En 1985, Jean Dutour estime que le français est le plus subtil, le plus puissant, le plus précis, le plus aigu des langages humains, le plus adapté à tout, qu'il s'agisse d'âme, de littérature, de politique, de guerre et même de science. En 2014, enfin, Alain Borer consacre le français archilangue et le place sur la première marche du podium. Ça, c'est dans votre livre qu'on le retrouve, Michael Edwards, et qui nous rappelle qu'on n'a pas été toujours aussi modeste face à notre langue, hein, et dans ce complexe d'infériorité qui parfois nous caractérise aujourd'hui.
Je ne trouve pas beaucoup de complexes d'infériorité chez les Français d'aujourd'hui, en fait. Mais tous ces délires-là trouvent leur contrepoint en Angleterre, comme je le dis dans mon livre, dans l'histoire de la Royal Society, de Thomas Pratt, qui dit exactement la même chose de l'anglais. Et j'aimerais bien que l'on laisse de côté toutes ces fanfaronnades qui sont ridicules.
Mais ça nous dit quoi, cette forme de patriotisme linguistique, quelque part ?
Ben, je pense que toutes les nations sont comme comme tout le monde individuellement, c'est-à-dire que ce sont des égaux. Quand on gagne, on triomphe. Quand on perd, l'orgueil se dédommage en critiquant celui qui gagne. Pour moi, l'essentiel, c'est de dire que l'anglais et le français sont deux très belles langues qui ont des caractéristiques tout à fait différentes. Il n'est pas vrai de dire que l'anglais que l'on parle ailleurs que dans les pays anglophones est un mauvais anglais, comme si le français que l'on parle dans les pays autres francophones était du pur français. On le dit quelquefois, on dit que on suppose que si le français était la langue unique de l'Europe, tout le monde parlerait un français absolument pur, grammaticalement complexe, avec un vocabulaire très riche, etc. C'est simplement pas vrai. Faut dire aussi que si l'anglais est très puissant dans le monde, c'est d'abord à cause de l'Empire britannique et ensuite à cause de la puissance américaine. Si le français est parlé dans le monde, c'est parce que les Français aussi ont créé un empire. Tout cela,
c'est vraiment des conceptions coloniales de la langue qui ont prévalu pendant un long temps et on en sort à peine, en fait. C'est aussi ce que vous nous dites. Mais aujourd'hui, il serait temps quelque part de reconnaître qu'il n'y a pas qu'un Français, mais bien une grande famille de Français apparentés.
Exactement. Mm. Et les Anglais sont très conscients du fait que l'Angleterre, ayant essaimé un peu partout, grâce surtout aux colons anglais et aux soldats anglais, comme le français a essaimé, non pas parce que les gens ont dit « Oh, que c'est une belle langue, je vais l'apprendre », mais parce qu'ils étaient envahis. De toute façon, l'essentiel, c'est que ces deux belles langues doivent se défendre en tant que langue et que les Anglais sont très conscients du fait que ailleurs qu'en Angleterre, en Australie, qu'en Angleterre ou au Royaume-Uni, il y a des Anglais très différents en Asie, en Australie, en Afrique, aux Antilles, en Amérique. Et que c'est un enrichissement de la langue. Quand on pense au latin, par exemple, on ne parle plus le latin, mais tout le monde parle latin dans les pays romans. Le latin a donné naissance à plusieurs langues. Et l'anglais existe déjà sous la forme d'une famille de langues anglaises. Et j'aimerais que les Français comprennent que le français aussi doit passer par cette étape, que l'on ne suppose pas que le français de France est le seul français possible, le français pur, exact, correct, et qu'on s'intéresse au fait que dans d'autres pays francophones, il existe des variantes de français qui sont très riches et qui nous instruisent et qui nous attirent.
Alors à ce propos, votre confrère, l'écrivain Éric Orsenna, a dit à propos du français, les Français ne sont pas propriétaires de leur langue, en Suisse, en Belgique, au Québec, en Afrique. Les apports de la francophonie la nourrissent. Cette verbodiversité, bien à l'image de la langue et du peuple qui la parle, dépasse l'idée de nation. La langue, c'est en gros ce que nous mettons en partage, ce que nous avons en commun. À propos de l'Europe, unie dans la diversité, c'était la devise. Comment repenser aujourd'hui une politique linguistique européenne qui refuse l'uniformité, qui laisse vraiment place à cette diversité pour vous? Est-ce que vous auriez des pistes, Michael Edwards?
Pas vraiment, non. Je m'intéresse toujours à l'existence de toutes les langues, comme je m'intéresse au fait qu'au moment de l'ordonnance de Villers-Cotterêts 1539, où François Ier a dit qu'il voulait que les documents judiciaires, etc., administratifs, soient écrits en langue maternelle française, non pas pour imposer le français, mais pour que les gens comprennent de quoi on leur parlait et de quoi on les accusait, qu'à ce moment-là, la langue maternelle française n'était parlée que par un petit pourcentage de ses sujets, et que dans les provinces, on parlait gascon, picard, provençal, etc. Et progressivement, en France, on a voulu anéantir les patois. Ensuite, il y a eu un retournement des choses. Maintenant, on veut au contraire les encourager. À l'Académie française, nous sommes aussi très favorables aux langues régionales. Et c'est la même chose en Europe. Le problème en Europe, qui est maintenant une organisation, il y aurait des choses à dire là-dessus, c'est évidemment que si on se dit que 28 ou bientôt 27 pays parlant leur propre langue doivent parler leur propre langue et avoir tous les documents dans leur propre langue, ça devient administrativement ridicule et impossible à gérer.
Oui, mais avec le Brexit et le départ des Anglais, ça va peut-être être du coup un atout pour les Français et la francophonie, en tout cas au sein de cet espace européen, l'occasion de reprendre un peu du poil de la bête.
Excusez-moi de le dire, mais à l'Académie française, nous disons exactement ce que nous pensons et nous avons la possibilité de le faire, parce que nous n'avons pas de compte à rendre au politiquement correct. Vous dites, maintenant, avec le Brexit, c'est une chance pour le français. Le français pourrait devenir la langue unique de l'Europe. Alors, réfléchissez. Vous êtes contre l'idée que l'anglais soit une langue unique, pour des raisons que je comprends et que j'accepte. J'abonde dans votre sens. Il ne faut pas que tout le monde parle anglais et que la façon de voir les choses anglaises soit acceptée par tout le monde. Je le dis très souvent. Mais si c'était le français qui était la langue dominante de l'Europe, est-ce que ça vous ennuierait que tout le monde commence à réfléchir, à parler en français, à avoir une sensibilité française, à penser comme les Français?
Vous voulez vraiment que je vous réponde?
Non, c'est une question.
C'est une question ouverte, rhétorique, posée si à tous ceux qui nous écoutent.
Oui, il faut se poser cette question. On s'oppose à l'universalité de la langue anglaise. Si c'était la langue française, si l'Empire français avait été plus grand que l'Empire anglais plutôt que l'inverse, si la France avait été la première puissance du monde, et que maintenant la langue française régnait sur la planète, est-ce qu'en France on se dirait « mais c'est intolérable, c'est la pensée unique ».
Voilà, et nous pouvons tous réfléchir à cette question comme les candidats à l'élection présidentielle qui y réfléchissent aussi à leur tour. Beaucoup comme Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen font de la langue notre socle commun, le socle commun de notre culture. Jean-Luc Mélenchon, lui, voit dans la francophonie un espace politique pour lequel chacune de nos nations pourrait voir plus grand qu'elle. Benoît Hamon, enfin, de son côté, veut construire un palais de la langue française dans lequel nous pourrons nous rendre et vénérer cette langue que nous partageons tous. Un grand merci, Michael Edwards, d'être venu nous parler de cet ouvrage, ces dialogues singuliers sur la langue française qui vient de paraître au PUF. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Nicolas Dutant, avec Coppelia Ménardi et Andrea Kinapi. Aux manettes, cela dit, Charlotte Roux, avec Valérie Lavalard et Alex Dang. Vous pouvez nous podcaster, nous écrire à la page de la Grande Table sur franceculture.fr. Et puis un petit rendez-vous à vous indiquer rapidement. France Culture et l'Odéon Théâtre, vous le savez peut-être, le théâtre de l'Europe présente un cycle de lecture de textes inédits de dramaturges européens. Ce soir, à 20h, vous pourrez y découvrir l'auteur britannique Zini Harris avec « Comment retenir sa respiration », une pièce coup de poing visionnaire sur l'Europe. Ce sera ce soir à partir de 20h. Rendez-vous quant à nous demain dans la Grande Table, première partie, Laurence Descartes, une femme à la tête d'Orsay, le musée. Elle sera notre invitée de midi à midi et demi. Et puis dans la deuxième partie, l'État face au terrorisme avec l'historien et juriste François Saint-Bonnet. Très bon après-midi à tous, à demain.